Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Alors, parler avec Aimé Boniface, ça serait difficile puisqu'il est décédé à l'âge de 93 ans en 2013. Mais pour en parler, nous avons avec nous Francine Cabanne. Bonjour Francine.
Bonjour.
Professeur d'histoire-géographie à la retraite et membre du bureau des Amis de la Fondation de la mémoire de la déportation, au bureau de la section du Gard, dont le président est Jean-Paul Boré. Et tous les deux, vous avez écrit ce livre donc, que vous avez présenté au Festival de la biographie, qui s'intitule « La lumière derrière les barbelés, la foi d'un pasteur », c'est-à-dire Aimé Boniface. Alors vous, vous l'avez connu personnellement, donc nous en parlerons de sa personnalité. Et comment ce livre est né? Parce que vous avez fait une conférence lors du festival qui a été très écoutée. Et c'est une personnalité extraordinaire. Donc comment vous avez eu l'idée de faire ce livre?
Alors l'idée de faire ce livre est née au sein de l'association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, parce que nous avons beaucoup travaillé sur les déportés du Gard. Et vous savez qu'au bout des allées Jean Jaurès, il y a un mémorial des martyrs. Et nous avons posé des plaques qui alignent les plus de 1000 noms des déportés du Gard. Et parmi ces noms, nous avons décidé chaque année d'essayer d'éclairer une figure de ces déportés, parmi ces déportés, pour laquelle nous avons un peu plus d'éléments. Donc l'année dernière, nous avions choisi Pierre Gamel, et on avait écrit une plaquette qui a pu être présentée au Festival de la biographie. Et cette année, carrément, c'est un livre que nous avons pu faire avec Jean-Paul Boré à partir des enregistrements que le pasteur Aimé Boniface avait lui-même fait à la demande de la Fondation de la mémoire de la déportation. Mmh. Il avait fait 6 heures d'enregistrement.
En 1995.
Voilà, tout à fait, en 1995. Et ces 6 heures racontent essentiellement, bien évidemment, sa déportation, les conditions dans lesquelles il a été arrêté, puis transféré en Allemagne et au camp de Buchenwald, et puis son travail dans les commandos, en fait, toute l'histoire de sa déportation. Alors, juste après la guerre, il avait écrit un livre qui s'appelait « Détenu 20801 », qui était son matricule, et il dit que ce numéro l'a bien évidemment marqué à vie. Mais voilà, nous avons eu aussi envie d'éclairer un déporté qui a revendiqué aussi sa foi de protestant, dont il dit que c'est cette foi qui lui a permis de tenir et d'aider aussi les autres déportés qui étaient avec lui.
Donc, vous êtes basé en fait sur ces enregistrements, et puis de là, c'est Jean-Paul Boré qui les a traduits. Qui les a mis par écrit?
Oui, on a utilisé un logiciel qui maintenant, à partir de tous ces enregistrements, est capable de transcrire, mais avec bien évidemment énormément de fautes sur les noms propres, avec des erreurs. Donc il nous a fallu ensuite, avec Jean-Paul, on s'est partagé le travail, moitié-moitié, reprendre tous ces textes pour les mettre en forme et pouvoir les publier. Et puis on a rajouté dans le livre, j'y tenais, un certain nombre de textes de communication que Aimé Boniface avait fait à l'Académie de Nîmes. Il a été membre de l'Académie de Nîmes. Il y est rentré comme membre correspondant en 1981, puis résident en 82, et il a même été président en 1987. Et il a fait 5 très très belles communications à l'Académie. Donc là, à la différence du reste du livre où c'est de l'oralité finalement, ce sont des enregistrements oraux, là ce sont des textes qu'il a lui-même écrits, et on voit à quel point il a une qualité d'écriture. Il a une formation aussi littéraire, enfin bon, il a fait des études de droit, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup lu et qui maniait magnifiquement la langue française, et ses textes sont très très beaux et très intéressants.
Alors, lors du Festival de la biographie, je pense que vous avez discuté avec beaucoup de personnes, et quel écho vous aviez de ce livre ou de Aimé Boniface?
Alors, on a discuté un peu avec les gens qui étaient dans la salle. Vous savez, moi, ce qui me surprend toujours, c'est à quel point la mémoire s'efface vite des choses. Et
Ses trois filles étaient là.
Ses trois filles étaient là et très très heureuses de ce moment où, quelque part, on faisait un peu revivre leur papa qui a tant compté pour elles. Mais dans la mémoire des Nîmois, je ne suis pas sûre que le pasteur Aimé Boniface soit encore bien présent. Alors, on a œuvré aussi, notre association, pour qu'un lieu lui soit donné dans la ville. Et bientôt, le rond-point qui se trouve près du viaduc des Neuf Arcades, sur la route d'Alès, non loin du cimetière protestant, on va lui donner le nom. Il n'avait pas de nom, ce rond-point. Ouais. On va lui donner le nom du pasteur Aimé Boniface. Et ce sera l'occasion de faire, je pense, une cérémonie où, là encore, on pourra parler de lui. Mais ces personnalités nîmoises qui ont joué quand même un rôle très, très important dans la ville, de par leur engagement dans divers lieux, lui, dans le monde protestant, mais aussi, je l'ai dit, dans le monde de l'académie et surtout dans le monde du témoignage. On en reparlera, je pense, après. Il a beaucoup témoigné dans les établissements scolaires et auprès des élèves de sa déportation. Eh bien, ces personnalités magnifiques, on a tendance à les oublier. Donc, c'était, je crois, pour beaucoup de gens dans la salle, une découverte.
Voilà. Ouais. Donc, c'est l'importance d'une association, justement, pour la mémoire, et que la mémoire ne s'efface pas. Alors, je vous propose, puisqu'on peut consulter sur YouTube, il y a quelques extraits de la voix d'Aimé Boniface. Je pense que c'est intéressant d'entendre sa voix, et après, vous nous parlerez de l'homme.
Le jour se lève sur des petits pavillons de banlieue, et notre train reprend la route jusqu'à Compiègne. Alors, à Compiègne, nous sommes accueillis aussi par des forces allemandes et nous avons traversé la ville, toujours en rang, toujours enchaînés, sous les regards de la population. Des regards, comment les traduire, à la fois plein de tristesse, quelquefois d'angoisse, et aussi de fierté. Que de poings devaient se serrer dans les poches. Je dirais que ces regards du peuple français, de ces Français de Compiègne sur les trottoirs nous voyant passer, qui ne pouvaient dire le mot, étaient pour nous d'une grande fierté, d'une grande aide. Et nous sommes amenés dans un camp qui est un ancien camp militaire, de grandes baraques, avec un grand terrain, dans un endroit qui s'appelle Royal Lieu. Donc le camp de Compiègne, Royal Lieu, était un stalag, c'est-à-dire un camp de prisonniers de guerre allemands, mais de prisonniers d'hommes ou de sous-officiers. Puisque les stalags étaient pour les hommes ou les sous-officiers, les oflags étaient pour les officiers. Offizierlager, c'est l'abréviation des termes allemands. Voilà donc le front stalag 122. On nous enlève les menottes, et nouvel interrogatoire, nouvelle fouille, nouveau dépouillement, on n'a plus de crayon, on n'a plus de papier. Il ne nous reste plus grand-chose de ce que nous avions amené.
Alors Francine, vous dites que vous l'avez côtoyé, bien sûr déjà âgé, Aimé Boniface, mais qu'il vous impressionnait beaucoup, mais il ne parlait pas que de sa déportation. Et quand vous étiez avec lui, qu'est-ce que vous ressentiez ?
Alors, vous avez entendu sa voix, hein. Oui. C'est une voix qui est profonde, grave. Moi, j'aimais beaucoup sa voix et sa manière de parler, qui était quand même une manière, j'allais dire, aujourd'hui un peu oubliée. C'était un homme très, très impressionnant. Mmh. Enfin, pour moi, en tout cas, il m'impressionnait beaucoup. À la fois par sa stature. Mais
du respect, du
voilà,
respect.
Voilà, par sa stature physique. Mmh. Il était grand et il se tenait très, très droit. Il était toujours très bien habillé et il avait cette belle voix profonde. Il parlait en mesurant ses mots, en pesant chacun de ses mots. C'était ce qu'il disait, c'était jamais anodin. Oui. Et dans les réunions, quand il prenait la parole, eh bien, tout le monde écoutait le pasteur Aimé Boniface. Et puis, c'était un homme d'une immense courtoisie, d'une grande élégance intellectuelle aussi, qui avait une grande culture, il connaissait beaucoup de choses, il lisait beaucoup, beaucoup de profondeur. Et donc, moi, j'aimais beaucoup discuter avec lui. J'avais la oui, ça a été une chance, parce que de le véhiculer dans ma voiture, parce qu'il ne conduisait plus à la fin de sa vie. Donc, j'allais le chercher pour les réunions. Il faisait partie de cette association des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Et donc, j'allais le chercher pour nos réunions, je le ramenais, nous discutions dans la voiture. Et vraiment, c'est une personnalité qui m'a beaucoup marquée et profondément impressionnée.
Oui. Peut-être que vous écrirez un autre livre. Puisque je sais que vous écrivez beaucoup aussi, Francine, et que la mémoire, transmettre la mémoire. Et je voudrais juste revenir sur ce qu'on a dit, les 1155 déportés gardois. Il y en a encore 70 qui restent inconnus. Donc vous avez encore du travail.
Oh oui, et puis la biographie de tous ces déportés n'est pas terminée. Vous savez qu'on a entrepris non seulement de les recenser, ce qui a été déjà un très gros travail, et on en retrouve de nouveaux tout le temps. La liste n'est pas close, loin de là.
Parce que les personnes donnent aux archives ou parce que les héritiers
ou parce que par nos recherches, parce qu'on fait beaucoup de recherches sur les déportés, eh bien, on est amené à recroiser d'autres données et à s'apercevoir qu'on a oublié un certain nombre de personnes, parce que ce sont les déportés qui ont un rapport avec le Gard, pas seulement ceux qui sont nés dans le Gard, ceux qui y ont habité, qui ont été arrêtés dans le Gard. Donc il y a donc une liste impressionnante avec des gens qui sont rentrés. Sur le monument, il y a un point qui marque si les gens sont morts en déportation ou si les gens sont revenus. Et cette liste, c'est très émouvant finalement. Ça peut paraître banal, mais enfin, je voulais juste te raconter que le jour où on a inauguré ces plaques, j'avais un ami dont le papa est mort en déportation alors qu'il avait 3 ans. Et il était en larmes, ce monsieur qui a plus de 70 ans, 80 ans aujourd'hui, et qui me disait, c'est la première fois que je vois écrit le nom de mon père. Ouais. Et donc pour lui, c'était quelque chose, un moment d'une immense émotion, que ce nom soit gravé dans le métal.
Comme s'il était là, immortel. Voilà. Quelque part.
Alors nous avons entamé le dictionnaire biographique des déportés du Gard, et c'est un énorme travail qui est sur Internet. On peut déjà le consulter, vous tapez le nom d'un déporté, et vous aurez sa biographie. Mais il y a des biographies pour lesquelles on a très peu d'éléments, donc on continue les recherches.
Voilà. Et bravo à vous et à l'association et à toutes les personnes qui travaillent pour la mémoire, puisque dernièrement, on a vu le film de Mariette Guiter sur le camp des Garrigues.
Oui.
Là aussi, vous parliez d'oubli.
Oui.
Peu de Nîmois savaient qu'il y avait eu un
Bien
camp
sûr.
De transit au camp, à Saint-Nicolas.
Bien sûr.
Oui. Il faut continuer de travailler, même si le contexte actuel montre qu'il y a encore beaucoup d'horreurs. Et vous lirez en conclusion de l'émission un texte justement qui montre un peu cette vision du monde d'Aimé Boniface. J'ai entendu que vous disiez Bonifat, alors moi je disais Boniface, donc il faut dire Bonifat.
Il y a un S au bout, mais ses filles disent Bonifat.
Alors, Bonifat. Bon,
donc je dis Bonifat.
Bonifat. Alors, la déportation, on va y revenir. Sans la déportation, sans la guerre, sans la déportation, il ne serait pas devenu pasteur.
On ne peut pas le dire, mais sans doute que non. Effectivement, en fait, ce jeune homme qui a eu une enfance quand même très difficile, il est né en Algérie, mais ses parents étaient des cultivateurs très modestes et son père était parti en Algérie parce qu'on y distribuait des terres. Mais dans une fratrie de 7 enfants, et il était chétif et en plus une bouche en trop un peu à nourrir, le papa avait demandé à sa sœur du Tarn, qui est originaire du Tarn, de venir chercher ce petit garçon d'un an. Donc il a été, sa maman est morte et donc il a été privé de sa mère décédée et de son père qui a continué à vivre en Algérie dès sa toute petite enfance. Il va être élevé par des tantes dans le Tarn qui étaient très protestantes. Et cette tante Amélie et puis ses deux filles qui ne se sont jamais mariées, Alice et Hélène, qui pour lui ont été ses mères en quelque sorte. Et l'avait amené à Nîmes, la famille s'installe à Nîmes, et là il va aller comme interne au lycée Daudet, il avait des bourses, c'est un excellent élève, et il va faire des études de droit.
Oui, donc c'est pour ça qu'il serait peut-être
devenu avocat, ou il se destinait au droit. Mais la guerre est arrivée, et
Oui, pendant... il avait 20 ans, hein, 1920, voilà. 1920.
Exactement, 1920. Il est né en 1920, donc il a 20 ans en 1940. Il est très influencé par un professeur de droit de l'Université de Montpellier qui s'appelle Henri-Pierre Tetjen, qui a été le créateur du mouvement Combat, qui s'est appelé le mouvement Liberté d'abord, et qui bien évidemment a entraîné avec lui un certain nombre de ses jeunes étudiants dans l'idée qu'il fallait résister. Et puis, Aimé Bonnivard aimait à dire à quel point Karl Barth, le grand pasteur suisse, hein, qui avait dénoncé le nazisme très tôt, l'avait influencé. Il avait beaucoup lu Karl Barth et il me dit on était tous persuadés qu'il fallait combattre le nazisme, oui, même si on n'était pas en zone occupée.
Ce n'était pas le cas dans la France de Vichy.
Voilà.
Oui, il faut rappeler oui, tout
oui,
même.
Bien sûr, oui. Et il va aussi décider qu'il faut que sa vie serve à quelque chose et il devient en fait le responsable de l'union des chrétiens, l'union chrétienne des jeunes gens pour toute la zone sud. Hein, et ça, dès 1941. Et il va de ce fait aller à l'école des Cales, l'école nationale du Riage, où il fait un stage qui va beaucoup le marquer, parce que vous savez que cette école du Riage, qui préparait les cadres de la nation, a été une pépinière de résistants, et qui n'ont pas accepté la collaboration, qui n'ont pas accepté finalement la politique du maréchal Pétain.
Et dès le début.
Ouais. Et d'ailleurs, l'école du Riage va être dissoute par le maréchal Pétain assez vite. Mais lui, il a été là encore très très marqué par ce passage. Et par ça développe chez lui l'esprit de résistance. Et il se dit, il faut que je rejoigne la France libre. Donc il décide de partir dans les Pyrénées pour essayer de passer en Espagne et de là rejoindre la France libre en Afrique du Nord. Mais il va se faire arrêter avec les autres jeunes gens qui traversent avec lui les Pyrénées au col du port de Salo et donc dans l'Ariège et il va être transféré avec tous ceux qui sont arrêtés avec lui d'abord à Aulus-les-Bains puis à Toulouse où ils sont emprisonnés et de là à Compiègne c'est sa première expérience de prisonnier au camp de Royallieu à Compiègne.
Oui,
avant
l'extrait on a
voilà, avant la déportation vers l'Allemagne. Et il part le 2 septembre 1943 pour l'Allemagne. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il raconte dans ses témoignages et qui retranscrit dans le livre est d'une grande, grande force parce qu'il n'enjolive pas, il ne cherche pas à dramatiser à l'extrême, il est sincère. Et il dit comment les choses se passaient. Alors, c'est épouvantable, parce qu'on sait bien que les conditions des convois ont été épouvantables, mais, et les conditions de vie ensuite dans le camp. Mais souvent, il insiste, par exemple, sur le fait qu'ils ont pu, à un moment donné, pouvoir s'entraider, lui particulièrement, il a été un peu protégé parce qu'il a eu plusieurs maladies qui lui ont permis d'être à l'infirmerie et d'éviter des commandos dont il ne serait pas revenu parce que pratiquement tous ses camarades ne sont pas revenus.
Donc là, en fait, il a déjà puisqu'il deviendra pasteur, il fera ses études de théologie après la guerre, mais on sent déjà ce charisme pour encadrer les autres, cette foi importante. Et vous disiez que à chaque repas, il chantait la Sevenolde. Donc pour lui, ce chant est un peu un symbole de foi, mais aussi de résistance.
Oui,
en fait.
Et de lutte. Il racontait qu'il avait été nourri par les récits de ses tantes qui lui parlaient des camisards, qui lui parlaient de la lutte, qui lui parlaient de la tour de Constance, de ces femmes qui avaient gravé « résister ». Et ce mot « résister », il est gravé dans sa tête. Donc, tout ce temps de déportation, il va porter littéralement ses camarades, comme il les appelle toujours dans le livre, mes camarades, dit-il. Et il ne se met pas en valeur, il n'essaie pas de tirer la couverture à lui, mais on le sent à travers ses lignes. Il dit qu'il leur lisait des passages de la Bible, qu'il les encourageait à résister, qu'il leur disait, mais si, tenez bon, ça va aller, ne vous laissez pas
glisser. Donc il y a déjà cette force extraordinaire. Oui. Donc on va écouter, si vous le voulez bien, la Sevenolde.
Espérons, bougez et courage.
Alors, sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Francine Cabanne, toujours pour nous parler, bien sûr, du pasteur Aimé Bonifa. Cette fois-ci, je le dis comme vous le dites vous-même. Et ce livre, à partir d'entretiens. Et donc, après la guerre, une fois revenu en France, il se consacre à la théologie. Voilà, il va devenir pasteur.
Oui, cette foi qui, pour lui, a été son secours, hein, vraiment. Les paroles des évangiles l'ont tenu debout. Et il décide de consacrer sa vie à ça. Il va quand même tout de suite, en rentrant, témoigner. En écrivant ce livre de détenu dans les bagnes nazies, avec son matricule, 20801, il va vouloir témoigner. Mais c'est vrai que c'est une période, et il en parlait souvent, où on ne voulait pas écouter les témoignages des déportés. La guerre avait vraiment meurtri tant et que les gens avaient vraiment envie de tourner la page. Donc, il le dit souvent, il dit, il faut pas dire que les déportés n'ont pas voulu témoigner, c'est qu'on n'a pas voulu les écouter. Ils ont essayé de dire, mais on ne les écoutait pas.
Pourtant, à Nîmes, il y a eu
le fameux discours de Maître Bedos dans les arènes. Pourtant, oui, tout à fait. Mais après, là, dans les années 50, la vie avait repris.
C'était la reconstruction.
La reconstruction, la croissance en plus, c'était les 30 glorieuses. Donc, on ne voulait plus revenir sur ces heures terribles.
Il en avait un certain regret, une certaine rancune ou pas du tout?
Pas du tout dans son tempérament. Pas du tout, parce qu'il va se consacrer à autre chose. Il le dit d'ailleurs, même si à la fin de sa vie, ça va lui revenir, cette nécessité de témoigner, oui, absolument. Mais il va vraiment s'engager dans son métier de pasteur, qu'il va d'abord pratiquer dans l'Ardèche, les Ollières sur Eyrieux. Puis il ira à Pau et il sera pasteur aussi à Nîmes. Enfin, il aura plusieurs postes
aussi,
plusieurs postes de pasteur. Et dans toutes ses missions pastorales, il va vraiment se consacrer aux personnes, à l'envie d'aider. Et puis on est aussi pendant la guerre d'Algérie, donc il essaie aussi d'adoucir les familles qui ont des soldats en Algérie, la douleur de ces familles.
Il prend position aussi contre la torture, je suppose.
Oui,
aussi,
oui, tout à fait.
Évident, je vois même qu'il a fondé la section nimoise d'Amnesty International.
Tout à fait.
Cet engagement, c'est même au-delà de la fonction de pasteur, je veux dire, c'est en tant qu'homme.
Oui.
Et cette émission itinérance, c'est ce cheminement d'un homme, mais avec des certitudes, en fait, dès 1940, à 20 ans.
Oui.
C'est extraordinaire.
Oui, il a cet engagement humaniste. Pour lui, de la liberté, de la dignité de chaque être humain, qui est très très importante. Et son souci aussi, par exemple, d'être proche du peuple juif. Il dit, quand j'ai lu la Bible, j'ai compris d'emblée que le peuple juif était un peuple frère. Et donc, nous devions bien évidemment les secourir, les aider.
Donc, je vois qu'en 1919, la famille a confié ses archives aux archives départementales du Gard. Donc, là aussi, vous avez pioché, je dirais, beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a eu plusieurs hommages qui lui ont été rendus. Ce livre, c'est une autre forme d'hommage. Je pense qu'on peut terminer l'hommage avec un passage que vous voudriez lire, qui montre aussi combien il a entrevu l'avenir. Parce que quand on va écouter ce texte, la conclusion parle d'aujourd'hui, en fait. Et je vous remercie beaucoup, Francine, d'être venue à notre micro pour parler d'Aimé Bonifa. Nous vous écoutons et merci.
Voici ce que nous disait, il y a quand même pas mal d'années, plus de 20 ans, Aimé Bonifa, mais qui résonne pour moi beaucoup aujourd'hui. Nous sommes là aussi pour lutter. La vie est fragile. Des accidents peuvent nous menacer, mais nous ne sommes pas là pour nous laisser arrêter par les risques. Il faut courageusement prendre son destin en main. Il faut courageusement lutter pour cela. Depuis la guerre, il y a eu des avancées. Le colonialisme est en partie terminé. Nous avons assisté à la chute du mur de Berlin. Nous avons assisté à la fin de l'apartheid. C'est vrai que des dictatures ont été remplacées par des régimes démocratiques. Mais il y a encore bien des points noirs sur la planète. Ne soyons pas découragés. Je crois que l'homme, s'il se sent responsable, s'il accepte de maîtriser son destin individuelle et sociale, peut faire émerger avec l'avancée d'une nouvelle technologie qui ouvre pour nous un avenir inconnu. Nous ne pouvons pas dire ce que sera demain, mais je pense que les lois de la vie, les pulsions de la vie en nous, feront que, quelles que soient les menaces que l'on peut sentir pointer à l'horizon, les lois de l'équilibre vital reprendront le dessus et que, oui, j'exhorte à lutter courageusement.
Nous sommes en mars 2026.
Okay.